Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, troisième épisode, Blaise Sandra Revillalobos, l'improbable rencontre. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce chapitre de Carrefour des Amériques où nous nous retrouvons au Brésil en compagnie du poète Blaise Sandra. Nous sommes au mois de juillet 1924. Il est rentré de Rio à São Paulo. Il a bouclé le financement de son projet de film sur le Brésil. Il peut compter sur le soutien financier du président de la République et du gouverneur de l'État de São Paulo. D'ailleurs, ce dernier le convoque le 5 de ce mois avec Oswald de Andrade dans les locaux du journal au Correio Paulistano, le courrier de São Paulo. On discute surtout du film, évidemment, quand soudain, à minuit, les rues de la ville sont envahies par des militaires en rébellion et se transforment en champ de bataille. La révolution des lieutenants contre la supposée corruption des élites civiles vient d'éclater. C'est bien la seule chose que je n'avais pas imaginée dans mon film, dira Blaise. Et évidemment, son projet tombe à l'eau. Bombardements et incendies ravagent São Paulo, surtout dans le quartier où vit leur grande amie, Olivia Guedes de Penteado, et Blaise court chez elle pour aider le personnel à protéger sa résidence qui est tout en verrière et en immense fenêtre. Le siège dure plus de 20 jours avant que les militaires se rendent. La violence est telle que Paulo Prado et son épouse Marinette partent en voiture avec Blaise dans leur plantation de Santa Viridiana, loin, comme dit le poète, des contrastes brésiliens simultanés, mais ô combien dangereux. Les voilà donc en route vers ce havre de paix, au milieu des palmiers et des caféiers. Pierrot, de Marcelo Tupinambá, ce compositeur si populaire à São Paulo que Darius Milhaud a tellement cité dans ses œuvres. Et un coup de chapeau au pianiste brésilien Alexandre Dias qui a entrepris d'enregistrer toutes ses pièces pour piano. Après Santa Viridiana, Paulo Prado emmène Blaise le mois suivant dans la plus grande de ses fazendas, celle de São Martinho. Là-bas, il lui prête sa torpedo afin qu'il puisse découvrir la région. Et il lui parle aussi d'un autre fazendeiro, un autre planteur, qui demeure sur l'autre rive du fleuve Tietê dans les montagnes. Sa propriété, qui avait appartenu autrefois à Paulo Prado, s'appelle o Morro Azul, la colline bleue. Il se trouve que ce fazendeiro avait inventé une méthode révolutionnaire pour planter le café et s'était passionné pour l'actrice française Sarah Bernhardt lors de sa dernière tournée au Brésil. De plus, il disait avoir découvert dans la nuit brésilienne une nouvelle constellation qu'il avait appelée en hommage à Sarah, la Tour Eiffel sidérale. Rien de tel pour pousser Blaise au voyage, et quel voyage si on en croit le récit de son roman. La lumière de la fin d'après-midi est douce quand il rejoint sur les montagnes la route des crêtes qui mène de la ville de Campinas à un village qu'il a appelé Glareola. La nuit tombait rapidement, j'avais fait donner mes phares et je me laissais rouler dans la traversée des plantations d'orangers jusqu'au fond de la vallée déjà assombrie, cependant qu'en bas, les lumières de Glareola s'illuminaient soudain toutes à la fois, une débauche d'électricité, une fête. J'avais mis en branle ma radio musicale, l'émission de 20h, de la musique de chambre qui me venait de Paris, le Quatuor Poulet. Le temps ne compte pas la nuit, quand on se laisse emporter par le génie de la musique. Le Quatuor Poulet, jouant en sourdine. L'adagio du quatuor pour piano et cordes du compositeur brésilien Henrique Oswald par le quartet au Rubio. Je ne savais pas comment faire pour avancer et atteindre le pont à la sortie de la ville, un vieux pont de bois qui franchissait le Rio Tietê et qui devait me servir de repère pour ne pas manquer l'amorce du mauvais chemin raviné qui escaladait le massif pour grimper dans le vallon écarté du Morro Azul. Le cinéma de Glareola s'incendia, et ce fut le rush. la rue s'étant vidée, j'en profitais pour appuyer sur le champignon et franchir le pont. Le dernier raidillon, très roide, débouchait en plein ciel, en balcon, sur une espèce d'esplanade suspendue qui dominait la vallée. On se trouvait perdu au fond d'un cirque rempli de lune. Je voyais scintiller de petites lumières à éclipse, celles d'un train en marche au fond de l'horizon nord. C'était le Nocturne 17. Non pas un nocturne de Chopin, mais l'express de nuit, ou notturno, ainsi qu'on appelle les trains de nuit au Brésil, le seul train de luxe qui circule sur cette voie de pénétration dans les solitudes de l'Interland et qui va jusqu'au terminus en franchissant des rivières mystérieuses. Trenzinho do Caipira, le petit train de campagne composé en 1930 par Aitor Villa-Lobos, Isaac Karapchevski à la tête de l'Orchestre symphonique du Brésil. Blaise approche enfin du Morro Azul. la colline où vit celui qu'il appelle le docteur Osvaldo Padroso. Sur des kilomètres et des kilomètres, je roule entre des fils de fer barbelés, derrière quoi les plantations campent comme des armées babyloniennes. Et tout d'un coup, dans un tournant en plein virage, j'entre dans le vallon de la fazenda du Morro Azul. Je ne devais y passer que la nuit, j'y suis resté plus d'un mois. Le Morro Azul est une fazenda impressionnante au milieu d'immenses palmiers royaux. Dans ce décor d'opéra, Padroso lui parle sans arrêt de Sarah Bernhardt et l'invite à se plonger dans la contemplation du ciel nocturne. C'est ainsi, dit-il, qu'il a découvert ce lotissement du ciel qu'il a appelé en souvenir de Sarah, la tour Eiffel sidérale. José Eduardo Martins au piano et des membres du Quartetto Rubio dans l'andante du Quatuor d'Enrique Oswald dont on avait fêté les 72 ans cette année-là au Brésil. Qu'en est-il exactement de ce voyage de Blaise Sandra? Carlos Augusto Caliu de l'Université de São Paulo et le français Adrien Roig ont précisément reconstitué ce qui s'est vraiment passé. Blaise est allé en fait deux fois au Morro Azul, mais toujours avec Paulo Prado et des amis, et seulement pour un très court séjour, voire une seule nuit. Le docteur Osvaldo Padroso correspondait en réalité à Luis Bueno de Miranda, homme de confiance de Paulo Prado qui lui avait vendu cette propriété. Blaise, par pudeur sans doute, avait choisi un pseudonyme où l'on reconnaît le nom de ses amis, Osvaldo et Prado pour Padroso. On a retrouvé dans le livre d'or de la propriété leurs signatures réunies aux dates du 31 mars et du 11 mai 1924. Et dans la chapelle, on a découvert une photographie de la tour Eiffel sidérale que Blaise tenait pour une affabulation. Mais les sociétés d'astronomie, tant au Brésil qu'en France, ont refusé d'enregistrer cette constellation. Le 1er septembre 1924, c'est le départ de Blaise. Il est à nouveau sur l'océan, en route vers la France, et il fête à bord son 37e anniversaire. Nous sommes en vue des côtes. Le coucher de soleil a été extraordinaire. Un trait qui s'estompe Adieu, c'est l'Amérique. Il y a au-dessus une couronne de nuages, et dans la nuit qui vient, une étoile de plus belle eau. Maintenant, on va cingler vers l'est. Saudades das selvas brasileiras, nostalgie des forêts du Brésil de Villa-Lobos par Nelson Freire. Le paquebot de Blaise Cendrars atteint les côtes françaises à la mi-septembre 1924. De son côté, le compositeur Villa-Lobos quitte Paris pour Rio de Janeiro un mois plus tard. Comme Blaise Cendrars, il a toujours aimé raconter sa vie en brodant avec délectation afin de se créer sans doute ce personnage haut en couleur qu'aimaient les Français. Autre point commun entre les deux hommes, l'un et l'autre ont fait là un voyage en quelque sorte initiatique. Blaise est allé finalement au Brésil à sa propre rencontre. Il dira même que c'est au Morro Azul qu'il a fait son apprentissage de romancier. Villa-Lobos aussi s'est vraiment trouvé à Paris. Il est venu, écrivait Marcel Beaufils, par une sorte de mouvement contraire, découvrir à Paris son propre Brésil. D'ailleurs, à Rio de Janeiro, le poète Manuel Bandeira annonce son retour dans la presse en précisant « Villa-Lobos revient de Paris. De quiconque revient de Paris, on attend qu'il revienne plein de Paris. » Eh bien non, Villa-Lobos est revenu plein de Villa-Lobos. Et c'est ainsi que le nonetto créé en France trouve son accomplissement dans les Chorousses numéro 3, écrit au Brésil, avec le sous-titre « Pica-Pau », c'est-à-dire « L'oiseau pivert », qu'il crée à Rio en 1925. On y entend le chant indigène, « Nosanina Orecua », qu'il avait déjà harmonisé pour chant et piano. Quant au mot « Pica-Pau », il rythme ses Chorousses jusqu'au mot final « Brasil », le Brésil. « Pica-Pau », 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 « Le chœur d'homme et les solistes de l'orchestre symphonique de São Paulo, dirigé par John Nächling, dans les Choros numéro 3, Pica-Pau d'Aitor Villa-Lobos.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
Quand le compositeur débarque au Brésil en octobre 1924, la saison musicale s'achève et elle a été marquée par les récitals au théâtre municipal des deux grandes pianistes brésiliennes, Guillaume Arnovins, qui avait alors 29 ans, et Magdalena Taliaferro, qui en avait 30. Guillaume Arnovins vivait alors à New York et Magda Taliaferro à Paris. Elles menaient déjà une brillante carrière internationale et toutes deux commençaient à mettre des œuvres brésiliennes et notamment celles de Villa-Lobos à leur répertoire. En octobre, Guillaume Arnovins était retourné à New York. Mais Magda Taliaferro avait donné ce mois-là plusieurs récitals à Rio et Villa-Lobos a peut-être pu y assister. Elle interprète ici Alenda do Caboclo, la légende du paysan métis que Villa-Lobos a composé vers 1920.
Thank you.
Aitor Villa-Lobos à Lenda du Caboclo, Magda Taliaferro au piano. En France, Blaise ne tient plus en place et il embarque pour son deuxième voyage au Brésil le 7 janvier 1926. Le 25, il débarque à Rio où Paulo Prado et Marinette l'attendent, tous logent au luxueux Copacabana Palace face à l'océan Atlantique avant de se rendre à São Paulo. En février, pas question pour lui de rater le carnaval de Rio. Alors Paulo Prado l'accompagne du 13 au 16. C'est à cette occasion qu'il entre en contact avec le guitariste noir Ernesto dos Santos di Donga, qui était aussi un ami d'Osvaldo Andrade. Donga, c'est l'auteur en 1917 de la première samba enregistrée, Pelo Telefone, au téléphone, une samba qui avait impressionné Millo quand il était arrivé au Brésil cette année-là. Sandra propose à Donga de monter un petit orchestre afin de pouvoir organiser une tournée en Europe.
Elle est bonbon gira.
Elle est bonbon gira.
Elle est bonbon gira.
Elle est bonbon gira.
De son côté, Paulo Prado demande à Donga de faire découvrir à Blaise la macumba, le rituel syncrétique afro-brésilien. Donga organise tout cela et contacte même Villa-Lobos, qui a donc peut-être revu Sandra à cette occasion. C'est dans ces histoires vraies que le poète français raconte son amitié avec Donga et son bonheur d'avoir été grâce à lui au sein de la culture noire du Brésil et notamment celle qui chante et qui danse durant le carnaval qu'il aime tant. Les célèbres compères des premières sambas, Donga, Pixinguinha et João da Baiana, enregistrés ici dans les années 50 avec l'orchestre da Guarda Velha de la Vieille Garde. Quant à Villa-Lobos, il ne chôme pas. En février 1925, il dirige ses premiers concerts consacrés à sa musique à São Paulo. En juin, il est invité en Argentine par la prestigieuse Société des Amis de l'Art de Buenos Aires pour diriger sa musique de chambre dans la salle de la rue Florida, où il reprend les mêmes programmes qu'à Paris. De son côté, le pianiste Arthur Rubinstein, qui est en tournée au Brésil, ne l'oublie pas. il déjeune avec l'industriel Arnaud Guinley et le convainc d'aider à nouveau Villa-Lobos, car il est persuadé que c'est lors d'un second voyage à Paris que Villa-Lobos pourra montrer la véritable mesure de son talent hors du commun. Guinley est convaincu et il devient à nouveau le mécène du compositeur brésilien. Le voyage est prévu pour la fin de l'année. Pour l'heure, Villa-Lobos ne cesse de chanter le Brésil, en particulier dans ses choros numéro 6. Villa-Lobos, dernier mouvement des choros numéro 6, Isaac Karapchevski à la tête de l'Orchestre symphonique du Brésil. Au mois de mars 1926, après un mois et demi passé au Brésil, Blaise Sandrart se repose dans la fazenda de São Martinho, où il vit en famille, comme il dit, chez Marinette et Paulo Prado. Et il s'enferme pour travailler, car il veut à tout prix terminer son roman, Moravagine. Il se souviendra, dans son récit bourlingué, des heures chaudes passées à se délasser quand, dit-il, dans son hamac, sur la véranda, Paolo grillait menu une cigarette turque à pétales de rose et moi je fumais voluptueusement un long cigare du Pernambouc. En mai 1926 à São Paulo, Blaise apprend par la presse qu'un immigré japonais s'est suicidé dans sa ferme au sud du Brésil après avoir assassiné toute sa famille. Paulo Prado le voit totalement bouleversé. C'est peu de jours avant son retour en France. En effet, le 6 juin, Paolo, Marinette et Blaise sont à Rio, d'où ils embarquent pour l'Europe. Dans les bagages du poète, des oiseaux multicolores pour sa bien-aimée Raymond, et des 78 tours dont un enregistrement d'un célèbre machiche espiègle les coquins. « Suspira, nega, suspira, soupire, ma chérie, soupire !» Grand succès du carnaval de Rio cette année-là. Le machiche, c'était une danse extrêmement sensuelle, d'où ces soupirs amoureux qu'on entend dans ce 78 tours qu'a emporté Sandra.
Não tenha palpitações, que sem marido, moço e brejeiro, e ponha as instalações, mesmo debaixo do travesseiro, e desta qualquer hora, caso o malandro custe a chegar, botando o fone pra fora, forçosamente quem te está. Suspira, minha neguinha, bem na boca do aparelho. Suspira, nega, suspira, vai muito o meu torceiro. Suspira, nega, suspira, suspira, minha neguinha, bem na boca do aparelho. Descoberta que fez furor, que põe todo mundo alerta para resolver os casos de amor. Já hoje qualquer marmanjo tem que tal caso lhe impressione, cuidando do seu arranjo, diz a pequena no alto fone. Suspira, nega, suspira, vai muito o meu conselho. Suspira, nega, suspira, minha nega, bem na boca do aparelho. Suspira, nega, suspira, vai muito por meu conselho. Suspira, nega, suspira, ai, suspira, minha neguinha, bem na boca do aparelho.
À son retour en France en ce mois de juin 1926, Blaise Cendrars peut enfin mettre un point final à son roman « Moravagine » qui l'a hanté toutes ces années. « C'est un monstre », écrit-il à Jean Cocteau. En effet, le Moravagine en question est un terrible prédateur. En France, Blaise ronge son frein. Il ne songe qu'à repartir au Brésil. Le 12 août 1927, alors qu'il réside à la Redonne, il embarque à Marseille pour Rio de Janeiro, où il arrive le 5 septembre. Il y restera jusque fin janvier 1928. Dans la Fazenda de São Martinho, les conversations entre Blaise et Paulo Prado vont bon train. Blaise, totalement imprégné des enseignements et des récits de son ami brésilien, écrit en pleine euphorie un ouvrage qui fera date au Brésil, « La métaphysique du café ». Il est publié en portugais dans le supplément du journal do Brasil, à Rio, le 15 octobre 1927. Blaise n'imagine pas encore la chute brutale des cours du café lors de la crise mondiale de 1929. C'est dans Bourlinguet qu'il en parle. De 1929 à 1934, l'Institut du café a détruit 36 millions de sacs. On a jeté des cargaisons de café à la mer, on a brûlé le café dans le foyer des locomotives, au port de Santos. Une montagne de sacs empilés les uns sur les autres a brûlé nuit et jour durant toutes les années de la crise. C'était absurde. Le récit de Blaise mérite évidemment d'être nuancé. On écoute Manuel Correa do Lago de l'Académie brésilienne de musique.
Alors là, l'histoire, c'est vrai, ça a pris plus de proportions que ça n'a eu en fait. C'est-à-dire, d'abord parce que les locomotives n'ont pas marché, donc l'expérience a été faite une fois, mais l'anecdote était si bonne qu'évidemment, c'est devenu un cas célèbre. Mais en fait, le Brésil accueillit des récoltes absolument gigantesques de café, inadministrables. Et donc oui, le Brésil a eu une politique de destruction d'excédents, ce qui s'est fait dans plusieurs autres pays, dans plusieurs autres produits agricoles. Mais le café est toujours plus « colorful » que les autres produits. Et l'histoire des locomotives est évidemment irrésistible.
Para fazer bom café, meu bem, como se faz lá no Brasil. Precisa ter um bom café, meu bem, como se tem lá no Brasil. Uma plantinha vermelha que as moças colhem em pé, e quando é bem torradinho, fica pretinho e cheiroso, como ele é lá no Brasil. Como ele é lá no Brasil. Para fazer um bom café, meu bem, como se faz lá no Brasil. Precisa pôr tudo a ferver também, como se põe lá no Brasil. Tem de ser forte como o bem que a gente tem pelo Brasil. Tem de ser doce como o amor que a gente tem pelo Brasil. Você, seu moço estrangeiro, só põe açúcar se quer. Mas sendo um bom brasileiro, o seu café vai ser doce como se fosse um carinho. O seu café vai ser doce como se fosse um beijinho. E uma mulher que faz um bom café lá no Brasil, lá no Brasil, lá no Brasil.
Un petit clin d'œil farceur à Blaise Cendrars ou Samba do Café du poète Vinicius de Moraes, accompagné ici par Baden Powell en 1966. Pour faire un bon café, eh bien, il faut le faire comme on le fait au Brésil, avec amour, force et douceur. Lors de ce troisième voyage, Blaise n'a toujours pas trouvé un de ces assassins qu'il semble collectionner au Brésil, lorsqu'un jour, en dévorant la presse, il apprend que la population de Rio est terrorisée par les crimes en série d'un certain Febrônio, un maniaque sexuel qui se croit investi d'une mission mystique. Il tatoue ses victimes d'un signe kabbalistique après leur avoir arraché les dents. Blaise tient à le voir et à lui parler dans sa prison. Mais l'a-t-il vraiment rencontré? Rien ne le confirme jusqu'ici. 10 ans après son voyage, il lui consacre 4 articles dans Paris Soir en 1938 et un récit dans La vie dangereuse. Febrônio lui dit qu'il est écrivain et il l'appelle confrère, car il a en effet écrit un livre de rêverie mystique qui a été publié. Dans La vie dangereuse, Febrônio semble être en réalité une sorte de double démoniaque de Blaise, tel que l'avait été aussi le personnage fou et dangereux de Moravagine. Pour peu, on se croirait dans un film expressionniste allemand de ces années-là.
Thank you.
Le dernier mouvement du Ruggi Poema de Villa-Lobos, Roberto Duarte à la tête de l'orchestre de la Radio Slovaque. Une œuvre écrite d'abord pour le piano comme un portrait de Arthur Rubinstein. Et orchestrée, elle prend une toute autre dimension, plutôt inquiétante et rude, comme l'indique son titre. Dans son roman « La vie dangereuse », Blaise Sandrard imagine son criminel Febronio, encore en liberté, se promenant au bord de la mer à Rio de Janeiro, complètement envoûté par le paysage qui l'entoure. En réalité, on a surtout l'impression que c'est Blaise qui décrit son propre émerveillement alors qu'il déambule sur le sable de Flamengo ou de Botafogo face à la baie de Guanabara, mettant ainsi un point final à son dernier voyage au Brésil. Blaise a embarqué pour la France à Rio le 28 janvier 1928. Quand il marchait dans les rues qui mènent toutes à la mer, quand il s'avançait dans les cris de joie des klaxons et le tintamarre des trams, quand, couché sur une plage, il entendait s'ébattre autour de lui et rire à gorge déployée les prestigieuses femmes blanches, les insouciantes mulatresses cariocas, les ribambelles des heureux petits-enfants dans des cohortes de négrillons ressemblant à des angelots que leur mère trempait dans la vague et élevait dans la lumière comme une offrande, Febronio fermait les yeux. Il était projeté dans l'espace, grisé par cet appel de vie qui l'emportait en l'air. Son regard se fixait sur le pain de sucre, qui des profondeurs de l'océan jaillissait dans les profondeurs de l'azur, comme un rêve de pierre émergeant d'une frange d'écume et d'un ourlet de palmiers dressé face à la capitale du Brésil comme un lieu désigné, délectable, préétabli. C'est avec ce beau choro brésilien de l'ami de Villa-Lobos, Anacleto de Medeiros, interprété par l'ensemble de Mauricio Carilho, qu'on se dit au revoir, et qu'on se donne rendez-vous dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet, à la technique Cédric Chatelus. Une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.